Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ensharah. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى صدق الله العلي العظيم.
N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et mis bas de toi ton fardeau qui écrasait ton dos et élevé haut pour toi ta renommée? Oui, car à côté de la difficulté est une facilité. Quand tu es libre donc, lève-toi et aspire à ton Seigneur.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le dimanche de Mordad, 1401 du calendrier iranien, 26 juillet 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Les sanctions américaines contre l'Iran sont préjudiciables à l'économie mondiale et à l'Europe, a déclaré le président iranien Ibrahim Raisi à son homologue français Emmanuel Macron. L'arrestation des agents du Mossad en Iran. L'entretien téléphonique du président Macron et du président Raisi sur le nucléaire iranien. Et l'Iran appelle à se concentrer sur une solution politique à la crise ukrainienne. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Un réseau d'espionnage lié au Mossad israélien a été démantelé et ses éléments actifs ont été arrêtés en Iran, a annoncé le ministère iranien du renseignement. Le ministère du renseignement a annoncé samedi 23 juillet dans un communiqué qu'un réseau d'agents du service d'espionnage du régime sioniste, Mossad, avait été identifié et tous ses éléments opérationnels ont été arrêtés. Un réseau d'agents du service d'espionnage d'Israël qui ont été envoyés dans le pays pour mener des opérations terroristes a été identifié par les agents du renseignement et tous les éléments opérationnels ont été arrêtés avant tout acte de sabotage, peut-on lire dans le communiqué du ministère iranien du renseignement. Les membres de ce réseau qui étaient en contact avec des agents de l'organisation terroriste Mossad via l'un des pays voisins et étaient entrés dans le pays depuis la région du Kurdistan irakien, disposaient des équipements opérationnels et de télécommunications les plus modernes et des explosifs les plus puissants en vue de perpétrer des actes de sabotage et des opérations terroristes sans précédent dans certains points sensibles et certains cibles prédéterminées. Ils ont été tous piégés et la totalité de leurs armes, explosifs, équipements techniques et de communication ont été découverts et saisis. Le président iranien a déclaré que la relance de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien est possible si les autres signataires de l'accord fournissent des garanties que Téhéran bénéficiera de ses avantages économiques. Un communiqué de l'Élysée a annoncé tard dans la nuit de samedi que le président Emmanuel Macron a eu un entretien téléphonique avec son homologue iranien Ebrahim Raisi, durant lequel il était question du programme nucléaire iranien. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, lors d'un entretien au téléphone vendredi avec son homologue hongrois, a appelé à se concentrer sur une solution politique à la crise ukrainienne. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdullahian, a évoqué les progrès réalisés en République islamique d'Iran et ses réalisations scientifiques et technologiques, notamment la localisation des connaissances et de la technologie nucléaire pacifique à usage multiple dans les domaines médicaux, agricoles et industriels, et par la production d'électricité, et a affirmé sa volonté de coopérer avec la Hongrie dans les domaines scientifiques. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, a souligné la détermination de la République islamique d'Iran à préserver et à développer la technologie nucléaire pacifique, ainsi que le sérieux de Téhéran dans les négociations visant à lever les sanctions et à parvenir à un bon accord durable, en affirmant que le dialogue se poursuit avec l'Union européenne. Nous espérons que la partie américaine sera réaliste et facilitera le retour de toutes les parties à l'accord, a-t-il noté. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir frappé une usine de traitement des céréales dans le plus grand port de la mer Noire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie lors d'une réunion avec une délégation d'élus américains de violer systématiquement ses engagements après que les forces russes ont bombardé, selon Kiev, le port d'Odessa au lendemain de l'accord pour la reprise des exportations de céréales ukrainiennes. La Russie a nié auprès d'Ankara toute implication dans les frappes contre le port ukrainien d'Odessa, a affirmé le ministre turc de la Défense Hulusi Akar. Hulusi Akar a par ailleurs affirmé que la Turquie était préoccupée par ces frappes contre le port d'Odessa, survenues au lendemain de la signature à Istanbul par Kiev et Moscou d'un accord sur la reprise des exportations de céréales ukrainiennes. Deux Palestiniens ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une opération de l'armée israélienne à Naplouse, en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Ils ont été identifiés comme étant Mohamed Azizi, 25 ans, et Abdelrahman Jamal Sopre, 28 ans, par le ministère qui a par ailleurs fait état de 6 blessés, dont 2 dans un état critique. Mohamed Azizi a été tué d'une balle dans la poitrine et Abdelrahman Jamal Sopre d'une balle dans la tête, a poursuivi le ministère palestinien. Les journalistes palestiniens ont décrit leur raid comme une véritable invasion militaire. Selon eux, des tireurs d'élite israéliens étaient positionnés sur des bâtiments d'où ils ont tiré des balles réelles et des grenades assourdissantes. Les forces israéliennes ont également pris d'assaut la ville de Jenin en Cisjordanie. L'armée israélienne mène des raids quasi quotidiens et des opérations d'arrestation dans les villes palestiniennes en Cisjordanie occupée. Les attaques font souvent des victimes. Les forces israéliennes ont tué au moins 50 Palestiniens dans les territoires occupés depuis fin mars. Et le ministère des Finances des Talibans en Afghanistan a annoncé samedi avoir signé un contrat pour acheter 350 000 tonnes de pétrole iranien. Selon le ministère des Finances des talibans, le contrat a été signé afin de réduire le prix du carburant en Afghanistan. Auparavant, une délégation afghane de haut rang s'était rendue en Iran pour discuter des achats de pétrole, du prix et du transit des produits pétroliers vers l'Afghanistan, a rapporté le ministère des Finances taliban. Selon le ministère, un comité conjoint a également été formé pour signer des contrats de GNC, construire des oléoducs pour l'Afghanistan, ainsi que des contrats à long terme. Cela intervient alors que le prix de l'essence et du carburant a augmenté de façon sans précédent sur le marché de l'énergie en Afghanistan. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, a déclaré que les sanctions imposées par les États-Unis à la République islamique d'Iran, à la suite du retrait unilatéral de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, ont nui à l'économie mondiale, en particulier à l'Europe. Lors d'un appel téléphonique de 120 minutes, avec son homologue français Emmanuel Macron, le président Ebrahim Raisi a ajouté que malgré les sanctions américaines, la République islamique d'Iran a réussi à réaliser une croissance spectaculaire de sa coopération politique et économique avec divers pays à travers le monde. Le président de la République islamique d'Iran a condamné les mesures et les positions non constructives des États-Unis et des pays européens contre l'Iran et a ajouté « La publication d'une résolution au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique a été une initiative provoquant une crise visant à créer une pression contre la nation iranienne, ce qui a sapé la confiance politique. » Le président Raisi a souligné la nécessité pour la République islamique d'Iran de pouvoir récolter les bénéfices économiques de l'accord nucléaire de 2015 grâce à une éventuelle relance de l'accord multilatéral que les États-Unis ont abandonné unilatéralement 3 ans après sa signature, c'est-à-dire en 2018. La République islamique d'Iran estime que la conclusion d'un accord sur la relance de l'accord de 2015 dépend de la résolution complète des questions de sauvegarde et de la fourniture des garanties nécessaires, y compris l'adhésion continue des parties à l'accord et à la réalisation des intérêts économiques de la République islamique d'Iran, a souligné le chef de l'exécutif iranien. Le président de la République islamique d'Iran a également déclaré à son homologue français Emmanuel Macron que le groupe terroriste Daesh aurait déclaré un califat en Europe s'il n'y avait pas eu le rôle de la République islamique d'Iran de promouvoir la sécurité dans la région du Moyen-Orient, notamment par sa lutte contre le terrorisme et son soutien à l'intégrité territoriale et nationale et à la souveraineté des pays. Le président Ebrahim Raisi a ajouté que les questions régionales devraient être réglées par les nations et les gouvernements de la région, soulignant que l'intervention étrangère va à l'encontre de la sécurité et de la stabilité du Moyen-Orient. La France continuera à jouer un rôle actif jusqu'à la conclusion de l'accord final pour relancer l'accord nucléaire de 2015, a déclaré pour sa part le président français Emmanuel Macron. Le président Macron a ajouté que son pays continuerait son rôle dans le processus de conclusion des négociations de relance de l'accord nucléaire de 2015. Le président français a déclaré que l'Iran joue un rôle de premier plan dans la concrétisation des processus politiques dans la région. Il a exprimé le soutien de son pays à la position de la République islamique d'Iran contre les opérations militaires de certains pays de la région contre la Syrie. Les présidents iraniens et français ont également discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale ainsi que les développements régionaux et internationaux et de grands défis mondiaux, notamment la sécurité alimentaire et énergétique.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat de Presse TV français diffusée en ce samedi 23 juillet depuis la capitale iranienne, Téhéran. Une attaque israélienne contre la capitale syrienne Damas a causé la mort de 3 soldats et en a blessé 7 autres. La DCA syrienne a tenté et a réussi d'intercepter ces missiles lancés depuis le Golan occupé, a annoncé le ministère syrien de la Défense. Ce n'est pas la première fois que de tels genres d'attaques sont perpétrées contre le territoire syrien. En effet, il y a depuis des années une coordination secrète US-Israël, dont le régime sioniste, en Syrie et contre la souveraineté territoriale de ce pays arabe. La présence illégale des États-Unis a maintes fois été rejetée et accusée par le gouvernement syrien et de son côté la Russie. L'allié de la Syrie a maintes fois également rejeté cette présence non invitée des États-Unis et la présence surtout des bases américaines dans le sud-est de la Syrie. On sait bien que les États-Unis disposent des bases militaires en Syrie, surtout à Al-Tanf, peut-être une des plus grandes bases américaines en Asie de l'Ouest, mais bien sûr en Syrie. Alors, qu'en sera-t-il et qu'en seront-ils des politiques américaines et occidentales en Syrie dans les jours et les mois à venir, surtout après ce sommet tripartite entre les présidents iraniens, russes et turcs? Nous allons en parler avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous invite à regarder un petit reportage préparé par mes collègues. On revient tout de suite après.
Israël a mené une nouvelle frappe aérienne sur la Syrie, tuant 3 soldats et en blessant 7 autres. Le ministère syrien de la Défense a confirmé l'attaque. Il indique que leur raid aérien a visé une zone proche de la capitale Damas et a causé des dégâts matériels. Il indique que la défense aérienne syrienne a réussi à intercepter certains des missiles. Le régime israélien lance fréquemment et systématiquement des attaques de missiles sur la Syrie, ciblant principalement les forces militaires et celles de la résistance qui combattent les terroristes soutenus par l'étranger. La Syrie a à maintes reprises dénoncé les actes d'agression israéliens et déposé des plaintes officielles auprès de l'ONU et d'autres organismes internationaux pour violation de sa souveraineté. Damas dit se réserver le droit de répondre à l'agression israélienne.
Les violations du territoire syrien se succèdent par les armées américaines et celles du régime sioniste. Mais qu'en sera-t-il de la riposte syrienne, mais aussi de ses alliés? On en parlera avec nos deux invités. Nous avons avec nous Imad Eddine Amrouni, analyste politique, qui nous rejoint par Skype, et également Habib Tawa, analyste des questions internationales, qui est avec nous par téléphone. Je commence avec vous, Monsieur Amrouni, si vous voulez bien. Alors, merci, bonjour et merci de nous avoir accordé votre temps pour ce débat au sujet de la situation en Syrie, mais surtout des violations flagrantes des États-Unis et du régime sioniste contre ce territoire souverain. Comment interprétez-vous cette dernière attaque perpétrée contre Damas qui a causé la mort de 3 soldats, M. Amrouni?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, il faut féliciter le peuple syrien, l'armée arabe syrienne, le pouvoir syrien, qui est toujours en résistance face aux États-Unis et face au régime sioniste. Donc si aujourd'hui on a ces frappes qui continuent, c'est presque à peu près la centaine de fois qu'aujourd'hui le régime sioniste frappe le territoire syrien. Donc ces frappes, c'est une violation du droit international, violation du territoire syrien, mais ça montre aussi que ces frappes israéliennes viennent en réaction. Ici, ce n'est pas l'ennemi qui est en action, l'ennemi il est en réaction, car l'axe de la résistance s'organise, l'axe de la résistance mène des combats à l'intérieur même de l'entité sioniste, autour de l'entité sioniste, à Gaza, au territoire occupé, au Liban, au Syrie aussi, et même en Irak. Et donc cette résistance, elle s'organise, l'axe de la résistance, il est plus cohérent, il est plus dans la tactique, il est dans la stratégie, et donc l'ennemi sioniste, il est obligé de réagir. Et donc il ne peut réagir que sur le territoire syrien, car la Syrie représente aujourd'hui la plateforme nécessaire de l'axe de la résistance dans la région. Donc vraiment c'est une guerre entre l'axe de la résistance et l'entité sioniste d'une part, et la Syrie, elle est au cœur de cette guerre. Il ne faut pas oublier que les Syriens, l'armée arabe syrienne, a mené la guerre pendant plus que 8 ans contre les États-Unis et l'entité sioniste et les groupes terroristes de tous bords qui sont venus sur les territoires syriens. Donc c'est une guerre qui continue, mais sous d'autres formes.
Merci à vous. Restez avec nous, M. Amrouni. Alors, je me tourne vers Habib Tawa, analyste des questions internationales, qui est avec nous également depuis Paris. Alors, selon M. Amrouni, la Syrie est au cœur d'une guerre menée par les États-Unis et leurs alliés israéliens. Quelle est votre analyse et votre point de vue sur cette situation, M. Tawa?
C'est assez écœurant ce qui se passe, et ça ne fait pas 8 ans, comme a dit M. Amrouni, mais ça fait 11 ans, depuis 2011, que les Israéliens interviennent d'une manière ou de l'autre en Syrie. Et ça, c'est assez choquant, effectivement, c'est même inadmissible. Les Nations Unies ne font rien pour l'arrêter. En revanche, regardez, il y a de ça au début du mois de juillet, le Hezbollah a envoyé 3 malheureux drones sur une plateforme flottante israélienne, et le monde entier s'en est ému. Les Français se sont plaints, ils ont envoyé des gens à Beyrouth, les Américains aussi, etc. Donc il y a vraiment 2 poids et 2 mesures. Envoyer un drone, alors qu'en permanence, prendre le cas du Liban, il est tout le temps survolé par les drones et les avions israéliens. Et de l'autre côté, il s'agit de bombardements effectivement réalisés. Bon, tout ça, c'est évident. Néanmoins, il y a une question que l'on ne peut pas se priver de se poser. À la suite de la chute d'un avion, d'un Sukhoi russe, il y a quelques années, en Syrie, abattu par la chasse israélienne, les Russes ont fourni des S-300 à la Syrie.
Oui.
Ensuite, il y a eu des rapports de force à l'intérieur du pouvoir russe, qui fait que jusqu'à aujourd'hui, à part une seule fois, il est interdit à la DCA syrienne d'utiliser ses missiles contre les avions israéliens. Ils se contentent de taper les missiles. Je pense que si les Russes laissaient les Syriens taper les missiles, les avions, pardon, israéliens, il ferait longtemps qu'il n'y aurait plus eu de cette attaque. Donc la Russie est dans une situation assez ambiguë. À la fois, elle a un million et demi de citoyens en Israël, et à la fois, elle est contre la Syrie. Elle est avec la Syrie, pardon. Il y a, d'une part, l'armée russe est très opposée à Israël, et puis d'autre part, il y a la pression des oligarques pro-israéliens qui existent toujours à Moscou. Et je pense que c'est ça qui crée cette situation complètement surréaliste. Quant aux États-Unis, il est évident qu'eux et Israël sont contre la Syrie, ça tombe sous le sens. Mmh.
Merci pour vos explications, Habib Tabar. Restez avec nous. Alors, M. Amrouni, à votre avis, jusqu'où se poursuivront-ils ces violations, ces attaques, et surtout sous le silence, en fait, des instances internationales contre la Syrie? Jusqu'où se poursuivront-ils ces violations?
Il y aura toujours des attaques israéliennes. L'ennemi sioniste ne peut attaquer que par ses missiles. S'il avait la possibilité d'attaquer par les frontières, par le Golan occupé, ou même au Liban, ou même à Gaza, il va le faire. Cet ennemi, c'est un ennemi pour toujours. Ce n'est pas un ennemi temporaire. Donc la guerre continuera, les frappes israéliennes vont continuer. Par contre, la tactique de l'axe de la résistance peut changer. Et elle va changer. Mais la problématique, c'est qu'il faut comprendre que la technique, si vous voulez, la technologie syrienne, elle est très développée. C'est ça qui inquiète l'ennemi sioniste, car ces frappes, elles sont bien destinées. Ils craignent l'arrivée des missiles très développés pour la résistance au Liban, mais surtout pour la résistance palestinienne. La Syrie agit, le régime syrien agit, l'armée arabe syrienne, elle se positionne à l'intérieur même, autour même de l'entité sioniste. Donc il ne faut pas voir que l'ennemi sioniste est le plus fort, donc la Syrie subit. C'est au contraire, c'est que l'ennemi aujourd'hui, il subit les différentes frappes de l'axe de la résistance. Il ne faut pas voir la Syrie comme une seule partie. La Syrie fait partie d'un axe important qui s'appelle l'axe de la résistance. Aujourd'hui, on voit même le régime russe, en tout cas certains militaires et le pouvoir politique, va vers ce sens, parce qu'aujourd'hui, dans l'intérêt des Russes, c'est d'aller au-delà de ses intérêts avec l'entité sioniste. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent. L'entité sioniste ne peut faire que lancer des missiles. Peut-être ils vont agir sur le territoire libanais ou syrien ou irakien ou même iranien avec des assassinats ciblés, car nous sommes dans une période très trouble. L'ennemi, il est très énervé, il ne sait pas ce que l'axe de la résistance prépare. On est en plein guerre, et donc il essaie d'avoir une réaction syrienne ou réaction libanaise ou même une réaction irakienne. Donc il va frapper un peu partout, il peut frapper par des missiles sur la Syrie, mais aussi il peut faire des assassinats à l'intérieur de l'Iran, de l'Irak ou du Liban. C'est la guerre, et cette guerre, elle a tous les moyens, Israël a tous les moyens de frapper là où il veut, quand il veut. Par contre, aujourd'hui, il subit des actions directes de l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, aujourd'hui, n'est pas dans une position de réagir. C'est au contraire, c'est l'ennemi qui est en train de réagir. S'il y a ces frappes, c'est parce qu'il y a, si vous voulez, un développement technologique, un développement tactique de la part de l'axe de la résistance qui avance dans sa guerre contre l'entité sioniste.
Merci pour vos explications. Alors, M. Tawa, lors du sommet tripartite entre le président iranien, le président russe et le président turc, il y a moins de 72 heures à Téhéran, mais aussi lors de la rencontre avec le leader de la révolution islamique, le guide suprême. Le guide suprême de la révolution islamique avait annoncé et avait réitéré le fait que toute agression de quiconque vers la souveraineté et contre la souveraineté des pays de l'axe de la résistance retournerait contre ses acteurs. À votre avis, quel risque recourent-ils les États-Unis et le régime sioniste par ces violations flagrantes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie?
Je voudrais d'abord ajouter un nouvel élément à ce que vous avez dit, c'est que le guide suprême a félicité Poutine quand il l'a rencontré pour la politique anti-sioniste de la Russie. Et effectivement, la Russie a commencé à prendre certaines mesures contre Israël.
Oui.
Et en particulier, ils ont interdit le fonctionnement de l'agence juive en Russie. L'agence juive qui recrutait des citoyens pour de nouveaux citoyens pour Israël. L'agence juive a été interdite par tribunal à Moscou. La situation est en débat. Les Israéliens ont envoyé des gens pour essayer de rattraper la situation. Et ça, c'est une prise de position typiquement anti-israélienne.
Mmh.
Et c'est relativement nouveau, parce que ces gens-là étaient à Moscou depuis 1989. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et c'est pour ça qu'on peut... Et deuxièmement, il y a la position d'Israël qui apparemment tient à garder les distances entre l'Ukraine et la Russie, mais en même temps prend plutôt position contre la Russie. Donc toutes ces choses peuvent faire basculer le camp russe dans un certain sens contre Israël et donc laisser les S-400 taper les avions israéliens que l'on ne verrait plus dans le ciel dans ce cas. Et ça, c'est un point qu'il faut espérer qu'il va se passer. Il y a un troisième point qui est aussi très important, me semble-t-il, c'est que le basculement de la situation en Russie est lent, mais très probablement radical. Du côté iranien, c'est indiscutable que l'Iran soutient à 100% la Syrie, donc il n'y a même pas à se poser des questions là-dessus. Mmh. Et par contre, la Syrie, comme vous l'avez dit, est toujours occupée. Par exemple, on parle du nord-est de la Syrie, c'est un classique par les Américains, mais dans le sud-est, comme vous l'avez si bien dit, il y a une grande base qui est la base de Tanf, qui aussi permet de bombarder à droite et à gauche, de multiplier les actions des terroristes qui sont entraînés dans cette région de Tanf. Et donc ça aussi, c'est un point qui est très important et qu'il faut relever. Donc quand on se place dans le contexte de la réunion de Téhéran, il y a un point qui est important, c'est que les Russes et les Iraniens ensemble ont essayé de forcer le président Erdogan à arrêter ses opérations au nord-est de la Syrie. Et celui-ci, visiblement, n'a pas accepté jusqu'ici parce qu'il joue sur les deux tableaux, à la fois le tableau OTAN et d'autre part la pseudo-alliance d'Astana qu'il essaye de maintenir. Mm-hmm. Et donc si aussi la Turquie se retirait du nord-est de la Syrie, il serait possible à l'armée syrienne de régler le problème là-bas. Et la situation est très dure et très complexe.
Merci beaucoup, Monsieur Amrouni. Monsieur Tawa a relevé un point assez important en ce qui concerne aussi bien la présence américaine dans le nord de la Syrie, mais aussi la présence turque. Il y a eu aussi à 48 heures un carnage turc dans une station balnéaire au Kurdistan irakien qui a tué des enfants, des femmes et des civils. À votre avis, comment pourrait-on interpréter tous ces agissements, toutes ces attaques? Est-ce qu'on pourrait dire, que l'axe US-Israël-OTAN est en panique en quelque sorte?
Exactement, car la conférence de Téhéran, la conférence d'Astana, la présence du président russe, du président turc en Iran, à Téhéran, la rencontre importante, très très importante entre le président Poutine et le guide suprême de la révolution islamique, il faut bien noter car la situation elle est très fragile pour la Russie, très importante pour le monde et dans ce temps précis, il y a une rencontre importante entre le guide suprême et le président Poutine malgré toutes les difficultés si vous voulez et même M. Poutine il est sous la menace américaine. Et donc, il a insisté de venir à Téhéran et de rencontrer le guide suprême et d'en parler parce que le président Poutine, dans sa conférence de presse avec le président Raisi et le président Erdogan, il a bien mentionné qu'il a parlé avec le guide sur les points stratégiques. Et ça, c'est très important pour deux choses importantes. La première, la relation entre l'Iran et la Russie. Il y a un changement important qui est en train de se faire. Et ça, ça inquiète énormément les États-Unis. Et on a vu la réaction américaine, car les Américains, ils ne veulent pas que les Iraniens aillent trop loin dans leurs relations avec la Russie et même avec la Chine. Le président Poutine, il est venu lui-même pour, si vous voulez, augmenter cette relation stratégique entre l'Iran et la Russie sur deux points importants. Le point de la technologie nucléaire et militaire, et deuxième point, sur le pétrole et le gaz et l'économie et le commerce. Donc c'est un changement important du système, si vous voulez, global, régional. Il y a un changement réel au niveau des forces régionaux. L'Iran, aujourd'hui, c'est la force la plus importante dans cette région, plus importante même que les Turcs. Malgré que les Turcs aussi, ils essaient d'avoir des avantages par rapport à leur relation avec l'Iran, avec la Russie, mais aussi avec l'Europe et les États-Unis. Donc cette rencontre, elle est très favorable pour la région, très favorable pour la Russie, très très favorable pour l'Iran et pour la Turquie aussi. Par contre, cette frappe sur l'Irak, il faut déplorer les martyrs, mais il faut noter que cette frappe, en fait, c'est une frappe israélienne, c'est-à-dire avec l'armée turque. Et on sait très bien que dans l'armée turque, il y a des ennemis de M. Erdogan. L'armée turque, elle a essayé de faire un coup d'État contre Erdogan, il faut le rappeler. Et la Russie et l'Iran ont soutenu M. Erdogan pour qu'il reste au pouvoir. Donc c'est vraiment une frappe israélienne qui s'est opérée en Irak. Ce n'est pas une frappe turque au niveau politique, je parle. Parce qu'elle n'est pas dans l'intérêt de la Turquie de M. Erdogan. M. Erdogan, il est en difficulté économique, en difficulté politique à l'intérieur. Donc il ne va pas aller frapper des innocents et des civils irakiens à ce moment. Donc globalement, la conférence de Téhéran, c'est une conférence réussie. Et on voit que le langage iranien a changé. Le langage iranien, il est plus ferme par rapport aux Américains, plus ferme par rapport aux Israéliens, et même plus ferme par rapport à ses amis turcs, en disant que maintenant, il ne faut plus jouer avec les territoires syriens, et que la ligne rouge de l'Iran, c'est que la souveraineté de la Syrie, elle doit être sur tout le territoire syrien, et même le guide suprême iranien, il a demandé à M. Poutine de faire tout le possible pour faire sortir les troupes américaines du territoire syrien. Et ça, c'est très nouveau. Et ça, c'est pour ça que j'ai dit, on va passer pendant quelques semaines, pendant quelques mois, d'ici avant la fin du mois de septembre, peut-être à des mouvements de troupes, peut-être à des quelques opérations militaires ici et là, car on va voir vraiment que l'ennemi israélien va essayer de déstabiliser l'accord entre les Russes et les Iraniens, mais aussi entre les Iraniens et les Turcs.
Merci pour vos explications. Monsieur Tawan, nous avons 2 minutes devant vous. Alors, le mot de la fin en ce qui concerne ce sujet et cette situation dans la région. Comment interprétez-vous et comment voyez-vous la perspective des évolutions, surtout en Syrie?
La situation en Syrie, malheureusement, en dépit de l'optimisme que j'aimerais avoir, est relativement stable, c'est-à-dire que les Syriens résistent. Et les autres essayent de les déstabiliser en permanence. C'est une certitude. En revanche, il y a un élément qu'on a oublié de mettre en avant, c'est l'échec relatif du voyage de Biden au Proche-Orient. Il est venu, ils espéraient, lui et les Israéliens, constituer une sorte d'OTAN anti-iranienne, OTAN arabe anti-iranienne. Là, ça a été un chou blanc. Et les Saoudiens ont dit qu'ils allaient essayer de rétablir des relations et ils ont continué ensuite avec l'Iran. Donc ça, c'est un point qui est dans ce sens-là. Et quand on regarde dans cette perspective la conférence de Téhéran, elle constitue un début de réponse aux Américains. Les Américains ont dit nous allons aller nous installer en force, enfin nous renforcer plus exactement. Ils sont sortis affaiblis de cette réunion. Ça, c'est très important pour la région. Pour la Syrie, je souhaite le meilleur, mais je suis malheureusement inquiet de voir une stabilité dans l'instabilité.
Merci beaucoup. Alors, Habib Tawa, analyste des questions internationales, Imadeddine Amrouni, expert des questions internationales également, tous deux étaient avec nous depuis la capitale de la France, Paris. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis pour ce débat. Vous pourriez également regarder et revoir, rediffuser nos émissions, toutes nos émissions sur notre site web qui s'agit de French. French.presstv.ir. Mesdames et messieurs, merci à vous. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Chers auditeurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de l'émission Afrique Économie. Trois pays africains bénéficient du système indien de préférence tarifaire en franchise de droits en faveur des pays les moins avancés. Les échanges commerciaux entre l'Inde et l'Afrique ont atteint un nouveau record durant l'exercice fiscal 2020-2021 pour s'établir à 89,5 milliards de dollars contre 56 milliards de dollars durant l'exercice précédent, a annoncé le ministre indien des Affaires étrangères le mardi 19 juillet. Ce niveau a été atteint grâce notamment au système de préférence tarifaire en franchise de droits lancé par l'Inde en faveur des pays les moins avancés qui a étendu les exemptions douanières à 98,2% du total des lignes tarifaires indiennes. Jusqu'à présent, 33 pays africains ont été autorisés à bénéficier des avantages de ce régime, a-t-il déclaré à l'ouverture de la 17e édition du conclave de la Confédération de l'industrie indienne et de la Banque indienne d'import-export sur le partenariat Inde-Afrique. Le chef de la diplomatie indienne a également estimé que l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine aidera les entreprises indiennes à renforcer leur présence sur le continent, notant que l'Inde et l'Afrique doivent désormais travailler ensemble pour assurer leur sécurité alimentaire et énergétique et empêcher la prise en otage de leur population par les caprices des marchés internationaux. Il a d'autre part fait remarquer que l'Inde figure parmi les 5 premiers investisseurs en Afrique avec des engagements cumulés de 73,9 milliards de dollars entre 1996 et 2021. Selon lui, New Delhi a aussi accordé des lignes de crédit d'une valeur globale de 12,26 milliards de dollars aux pays africains qui sont le deuxième plus grand bénéficiaire des prêts concessionnels de l'Inde. Le secrétaire d'État indien au commerce a quant à lui plaidé pour le lancement de négociations sur un accord de libre-échange entre l'Inde et l'Afrique. Le moment est venu pour l'Inde et l'Afrique pour commencer à discuter d'un partenariat économique global ou un accord de libre-échange. Ce serait un accord gagnant-gagnant pour les deux parties, a-t-il dit. Selon les médias indiens, une quarantaine de ministres africains originaires de 17 pays, dont le Cameroun, l'Éthiopie, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Ghana et le Nigeria, ont participé à la 17e édition du conclave de la Confédération de l'industrie indienne et d'Exim Bank of India sur le partenariat Inde-Afrique. Le poids important de l'armée égyptienne dans l'économie dépasse 40%. Cela est régulièrement décrié par les experts qui y voient un obstacle à la libre concurrence et un repoussoir pour les investisseurs privés locaux et étrangers. En Égypte, le Conseil des ministres a annoncé dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion tenue le mercredi 20 juillet avoir approuvé l'introduction de deux entreprises détenues par l'armée sur le marché boursier. Il s'agit de la société Safi, spécialisée dans la production et la mise en bouteille d'eau minérale et d'huile d'olive, et la société de distribution de produits pétroliers Vatania, qui exploite un vaste réseau de stations-service à travers le pays, précise le communiqué. En Égypte, l'armée détient un véritable empire économique dont les activités vont de l'agriculture aux industries alimentaires, en passant par les industries militaires, la distribution des hydrocarbures et la réalisation de grands projets d'infrastructures. Son poids dans l'économie égyptienne dépasse 40% selon les estimations des économistes égyptiens. Le pays est confronté à de graves difficultés économiques depuis le début de la guerre en Ukraine. Le président Abdel Fattah al-Sissi avait appelé en mars dernier à une privatisation partielle de plusieurs dizaines d'entreprises publiques, y compris celles détenues par l'armée, d'ici la fin de l'année en cours. Ce programme de privatisation, dont une partie passera par la Bourse du Caire, devrait permettre à l'État d'engranger 10 milliards de dollars chaque année pendant 4 ans. Le poids important de l'armée dans l'économie égyptienne est régulièrement décrié par les experts qui y voient un obstacle à la libre concurrence et un repoussoir pour les investisseurs privés, locaux et étrangers. En RDC, un rapport publié plus tôt cette année par l'ENACT Africa, un projet de l'Union européenne destiné à renforcer la lutte contre le crime organisé transnational en Afrique, met en lumière certains des maux qui nuisent à l'exploitation responsable du coltan. Entre collusion de l'État avec les réseaux criminels, destruction du patrimoine historique des communautés locales, exploitation de mineurs, viol et violences sexistes, environ 4 milliards de dollars sont perdus chaque année par l'État. Le rapport de l'ENACT est notamment le fruit de discussions menées sur le terrain avec des membres du ministère congolais des mines, des responsables du centre de certification, d'expertise et d'évaluation de l'Agence congolaise de l'environnement et d'organisations non gouvernementales du Nord et du Sud Kivu, entre autres. Selon les conclusions rapportées, une grande partie de la production artisanale congolaise de coltan échappe encore au contrôle de l'État. Une situation qui serait intimement liée, apprend-on, à la présence de groupes armés dans les zones d'exploitation situées dans des territoires éloignés. Cela empêche en effet les autorités de contrôle d'y accéder pour mettre en œuvre la réglementation en vigueur. Cette zone de non-droit favoriserait le travail des enfants, l'insécurité des travailleurs, avec parfois des violences sexuelles sur les femmes actives sur les sites d'extraction. Dans les zones où la présence gouvernementale est clairement démontrée, le rapport de l'ENACT dénonce aussi une collaboration entre les autorités chargées de réglementer l'activité et les groupes criminels qui opèrent sur le terrain par le biais de la corruption. Le cas qui illustre le mieux cette situation reste celui du service d'assistance et d'encadrement des mines d'artisanal et de petite échelle créé en 2003 avec pour double mission le contrôle des opérations artisanales et le développement du secteur. Cependant, l'ENACT indique que près de deux décennies plus tard, les maux du secteur ont empiré, car l'organisme étatique se préoccuperait davantage du paiement des taxes dues par les mineurs d'autre chose. Ces fonctionnaires qui cumulent souvent plusieurs mois de salaires non payés se retrouvent à harceler continuellement les mineurs pour qu'ils paient ou alors visitent de façon trop irrégulière les sites miniers pour que les missions de contrôle aient un véritable impact. À cela s'ajoute la vente par les fonctionnaires des étiquettes censées certifier la production de coltan provenant de mines légales à des négociants qui les utilisent pour faire passer leurs sacs de coltan contenant une production provenant de sites illégaux. La semaine dernière, l'État libyen et les manifestants ont convenu d'un accord afin que les activités pétrolières suspendues depuis plusieurs mois soient relancées. En Libye, le Premier ministre a annoncé le dimanche 17 juillet la reprise des exportations d'or noir, essentielle pour financer une part significative du budget national. La nouvelle intervient quelques heures après qu'un accord a été convenu entre l'État et les manifestants pour lever le blocus sur les exportations pétrolières suspendues depuis plusieurs mois. Tous les champs pétrolifères et les ports ont redémarré leurs activités et la production d'électricité va également augmenter, a déclaré le Premier ministre lors de la première réunion du conseil d'administration de la compagnie publique du pétrole suite à l'éviction de Mustafa Sanalla, ancien patron de la NOC. Selon plusieurs analystes, la réforme de l'instance dirigeante de la NOC qui a conduit à la déchéance récente de Sanalla à la tête de l'entreprise d'État depuis 2014 serait un plan destiné à apaiser les tensions politiques en Libye. Pour le Premier ministre, il s'agit d'un consensus visant à faciliter l'entrée de grandes compagnies pétrolifères, notamment européennes, pour aider à augmenter la production et à développer le secteur pétrolier. Pour l'heure, la reprise des exportations pétrolières en Libye laisse des doutes quant à l'apaisement des tensions politiques dans le pays. Une instabilité alimentée par la rivalité entre Abdulhamid Dbeibah et Fatah Bachara qui lui conteste son fauteuil de Premier ministre.